après une semaine difficile, vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Principe actif.
Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous.
À Héros. À l'écoute des RFI, les 7h à Paris, 9h à Tamatave.
RFI Matin.
Et 6h en temps universel, c'est le journal sur RFI. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous.
Le Bangladesh veut tourner la page Sheikh Hasina.
Du nom de cette ancienne première ministre autoritaire destituée à l'été 2024 après le soulèvement de la Gen Z. Le 8e pays le plus peuplé au monde vote aujourd'hui pour un scrutin législatif crucial qui opposera nationalistes et islamistes dans les urnes. Nous serons en direct du Bangladesh avec Abdoulaye Rali. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir, au moins 31 morts à Tamatave, deuxième ville de Madagascar. Après le passage de la tempête Guezani, l'urgence est de reloger les 250 000 sinistrés, alors que le cyclone pourrait se renforcer lors de son passage dans le canal du Mozambique. La France réclame la démission de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, pour des propos outranciers selon le chef de la diplomatie française. Propos déformés, mal interprétés, dénonce l'intéressé. Non-lieu confirmé en cassation dans l'affaire Adama Traoré en France. Sa famille ne compte pas s'arrêter là et annonce saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis enfin, un jeune homme sauvage, Sam Sauvage, dévoile sa chevelure et sa voix de crooner en fin de journal.
27 millions de Bangladais appelés à se rendre aux urnes ce jeudi.
Pour des élections législatives cruciales, le premier scrutin depuis la destitution et la fuite de la première ministre Sheikh Hasina. C'était à l'été 2024 après le soulèvement de la Gen Z, une révolte étudiante réprimée dans le sang qui avait fait 1400 morts. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h30. Heure locale, il est désormais un peu plus de midi dans la capitale Dhaka où l'on retrouve notre envoyé spécial Abdoulaye Rali. Abdoulaye, est-ce que les électeurs répondent présents ?
Nous attendons encore les premiers chiffres officiels de la participation, mais ici à Dhaka, l'affluence varie énormément d'un centre à l'autre, sur les plus de 2000 bureaux de vote que compte la capitale. J'ai vu des centres presque vides ce matin et d'autres où les files d'attente, en revanche, sont impressionnantes. C'est là notamment, c'est le cas notamment près de la commission électorale. J'y ai rencontré un homme de 65 ans qui me confie n'avoir pas voté depuis 15 ans. Pour lui, ce scrutin, en ce moment, est le symbole d'un renouveau. Même enthousiasme chez ce jeune de 20 ans, issu de cette génération Z, qui a porté le soulèvement de juillet 2024. Pour lui, voter aujourd'hui, c'est concrétiser le changement de modèle pour lequel il s'est battu dans la rue.
Abdoulaye, cette législative, elle s'accompagne également d'un référendum constitutionnel. Au-delà du vote, le Bangladesh qui cherche à changer de modèle politique.
Oui, les électeurs ont deux bulletins de vote aujourd'hui. Le premier pour élire leurs députés, 300 sièges sont à pourvoir. Et le second bulletin concerne ce référendum pour changer de modèle politique. C'est ce qu'on appelle ici la charte de juillet, en référence au soulèvement de juillet 2024. Et l'une des mesures phares est très symbolique. Elle vise à limiter strictement le mandat du Premier ministre, limité à deux mandats maximum, afin d'éviter toute nouvelle dérive autoritaire au Bangladesh.
Merci Abdoulaye Rali, en direct de Dhaka, des élections législatives au Bangladesh que nous suivrons toute la journée sur RFI.
À Madagascar, le bilan de la tempête Guezani s'est considérablement alourdi en 24 heures.
Au moins 31 morts à Tamatave, deuxième ville de Madagascar. Près de 75% de la ville est détruite selon le colonel Michael Ranjanirine, le président de la refondation. La ville compte 250 000 sinistrés, plus de la moitié de la population de Tamatave. Les rafales de vent atteignant jusqu'à 270 km/h ont emporté la plupart des toitures de l'île. Les autorités qui alertent aussi sur de potentielles propagations du virus. Guezani rétrogradé en tempête et qui est désormais dans le canal du Mozambique. Le Mozambique justement menacé désormais puisque le cyclone pourrait regagner en puissance dans les prochaines heures selon François Bonardo. Il est responsable du service prévision de Météo France à La Réunion.
Il va retrouver les bonnes conditions pour se réintensifier puisqu'il va de nouveau avoir son réservoir d'eau chaude. Les eaux du canal du Mozambique sont très chaudes à cette époque de l'année. Enfin, c'est un réservoir d'énergie, donc plus l'eau est chaude et plus elle est chaude en profondeur, plus les cyclones, lorsqu'ils transitent sur l'océan, ont de réservoirs, poursuivent leur intensification. Et donc, il va très rapidement retrouver un stade de forte tempête, puis très probablement un stade de cyclone tropical avant de venir flirter avec la côte sud du Mozambique. Et maintenant, les yeux sont un peu rivés sur le Mozambique pour la suite des événements d'ici 2-3 jours.
François François Bonnard, rejoint par Simon Rosé. Le passage de Guézani sur Tamatave raconté par ses habitants. Témoignages à retrouver sur notre site internet RFI.fr.
Et dans le prochain journal à 7h30, une 7e à huis clos, Benjamin Netanyahou de nouveau reçu par Donald Trump.
Pour la 7e fois depuis le retour du milliardaire républicain à la Maison Blanche, le Premier ministre israélien se rendait à Washington. Une rencontre cette fois-ci sans la présence de la presse. Donald Trump dit avoir insisté sur sa volonté de poursuivre des discussions avec l'Iran. Benjamin Netanyahou a lui demandé à son homologue de prendre en compte les besoins sécuritaires israéliens dans ses pourparlers. Le chef du gouvernement de l'État hébreu qui a aussi annoncé qu'Israël allait rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump, dont la première réunion entre dirigeants doit se tenir dans tout juste une semaine à Washington. Visite sur laquelle nous revenons dans un instant avec Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Il sera l'invité d'Arnaud Pontus juste après ce journal. Et pendant ce temps-là, Andréane, en France, eh bien la France qui demande la démission de la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, en poste depuis mai 2022, qui aurait tenu des propos polémiques sur la chaîne qatarienne Al Jazeera. Propos qui ont fait bondir Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. La France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, demandera officiellement sa démission le 23 février prochain lors de la prochaine session du Conseil. Problème, les propos rapportés de Francesca Albanese ont pour le moins été déformés et ne correspondent pas à ceux réellement prononcés. Aurélien Devernois.
Madame Francesca Albanese n'est ni experte, ni indépendante. C'est une militante politique qui agite des discours de haine.
Thème fort de Jean-Noël Barrot pour répondre à la lettre co-signée par 52 députés du camp présidentiel. Une missive demandant des sanctions contre Francesca Albanese après que celle-ci a qualifié, selon eux, l'État juif ou les Juifs d'ennemis de l'humanité. Des propos que Francesca Albanese, interviewée sur France 24, dément absolument avoir tenus.
J'ai jamais, jamais dit Israël est l'ennemi commun de l'humanité. J'ai parlé des crimes d'Israël. J'encourage tout le monde à écouter ce que j'ai dit dans le forum de Al Jazeera.
Et en effet, la représentante onusienne ne prononce à aucun moment la phrase qui lui est reprochée. Mais pour le chef de la diplomatie française, c'est un cumul de déclarations depuis les attaques du 7 octobre qui justifie la décision de Paris.
Des propos qui s'ajoutent à une longue liste de prises de position scandaleuses, justifiant le 7 octobre, évoquant le lobby juif ou encore comparant Israël au Troisième Reich.
Pas convaincant pour la députée insoumise Mathilde Panot, qui évoque une décision basée sur une fake news engageant la politique étrangère de la France. Un signataire de la lettre exprime lui son malaise. « J'ai sûrement signé un peu vite », admet ce député, reconnaissant que les propos attribués à Francesca Albanese ont été détournés de leur sens initial.
Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, territoire toujours pris pour cible par l'État hébreu. Hier, des colons israéliens ont détruit une quinzaine d'habitations palestiniennes en Cisjordanie occupée.
RFI 7h07 à Paris comme à Liège où se tient un sommet informel des dirigeants de l'Union Européenne.
Les 27 qui veulent travailler sur la compétitivité économique de l'Union Européenne avec comme piste l'élimination des barrières internes, encore la préférence européenne, et ce alors que la part de l'UE dans le PIB mondial est tombée sous les 15%. Et dans le même temps, à Strasbourg, les eurodéputés vont eux débattre de l'accord commercial signé en juillet dernier en Écosse avec les États-Unis. Donald Trump et Ursula von der Leyen qui s'étaient mis d'accord pour limiter à 15% les droits de douane sur les importations européennes. Reste donc au Parlement de ratifier cet accord, sauf que depuis, Donald Trump menace le Groenland et l'hémicycle européen apparaît plus divisé que jamais. Nathanaël Vitran.
Manfred Weber, le patron allemand du PPE, le parti conservateur, fait partie des hommes pressés.
En ce qui concerne le commerce avec les États-Unis, nous avons besoin de certitudes au plus vite. C'est une question trop importante pour prendre le moindre risque.
Du côté des patriotes de Jordan Bardella, on est tout aussi favorable à une signature rapide. Kinga Gall, membre du Fidesz de Viktor Orban, est vice-présidente du groupe d'extrême droite au Parlement.
Notre position est de ne pas attendre pour signer. Nous sommes en faveur de la désescalade.
Et puis il y a ceux que les récentes tensions autour du Groenland et les nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump ont échaudé. Comme l'explique l'eurodéputé socialiste Jean-Marc Germain, ils ont obtenu cette semaine de poser plusieurs conditions suspensives avant toute ratification.
Si menaces de Trump sur le Groenland reprennent, s'il ne revient pas sur les droits douane qu'il impose sur l'acier et l'aluminium, non pas simplement sur la matière brute, mais sur tous les produits transformés comme par exemple les machines à laver, alors à ce moment-là il y a une quasi-suspension automatique.
Les négociations portent aussi sur la durée d'application de cet accord qui doit désormais se terminer avant la fin du mandat de Donald Trump.
Pour montrer que le pistolet des rétorsions possibles si il venait à ne pas respecter l'accord est toujours sur la table.
Nathanaël Vitran, Strasbourg, RFI.
Et à la une de notre revue de presse internationale, cette question, Martin, l'Europe va-t-elle se réveiller ? Rendez-vous dans une heure après Telegram autour de WhatsApp de connaître de fortes perturbations en Russie.
L'application dénonce une tentative de la part de Moscou de bloquer complètement ses activités et ce afin de pousser les citoyens russes vers une application concurrente détenue par l'État et fortement contrôlée. WhatsApp qui compterait près de 100 millions d'utilisateurs selon le groupe Meta, propriétaire de l'application.
En France, non-lieu confirmé dans l'affaire Adama Traoré.
Au terme d'une bataille juridique longue de 10 ans, la famille d'Adama Traoré avait porté l'affaire devant la Cour de cassation. Un cas emblématique des violences policières en France. Le jeune homme de 24 ans, mort il y a 10 ans, à la suite d'un plaquage ventral de 3 gendarmes dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Un premier non-lieu avait été prononcé en 2023, faute d'éléments. Jugement d'abord confirmé en appel en 2024, puis hier devant la Cour de cassation. La famille Traoré n'a cependant pas épuisé tous les recours et compte continuer le combat à l'ex-Villeroy.
Cette décision met un terme à toute relance de l'enquête en France. Assa Traoré, la sœur d'Adama, dénonce ce qu'elle appelle un déni de justice.
Cette justice qui protège l'impunité policière. Et on voit clairement que dans l'affaire Adama Traoré, ils ont peur de la vérité. Nous avons des expertises qui vont confirmer que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Le combat n'est pas fini.
Ce combat, l'avocat de la famille Yacine Bouzrou veut le poursuivre jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Car dans ce dossier, la justice française a toujours refusé de mener certains actes d'enquête, notamment des reconstitutions.
Aucune enquête sérieuse n'a été réalisée sur les violences commises par les gendarmes. L'inspection générale de la gendarmerie nationale, eux-mêmes ont indiqué qu'il fallait réaliser une reconstitution. Malheureusement, les juges d'instruction ont refusé et la Cour de cassation, qui aurait dû casser cette décision en obligeant la justice à faire les actes élémentaires d'enquête, a estimé que ce n'était pas nécessaire.
L'avocat espère donc une condamnation de la France devant la justice européenne.
Alix Villeroy, un non-lieu de la Cour de cassation dénoncé à gauche, le député insoumis Thomas Porte évoque une justice française couvrant les violences policières. Le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, a lui au contraire salué cette décision, l'honneur des gendarmes, et sauf, a-t-il réagi.
On se quitte avec un jeune dandy, véritable surdoué de la musique française.
Une voix de crooner à seulement 25 ans, Sam Sauvage est déjà nommé aux Victoires de la musique, catégorie révélation masculine, pour son premier album Mesdames, Messieurs, encensé par la critique. Mesdames, Messieurs, voici Sam Sauvage que nous fait découvrir José Marinho.
À la loterie génétique.
Sam Sauvage a 25 ans. Il écrit, compose et chante. Son premier album, Mesdames, Messieurs, a été encensé par la critique. André Niway.
C'était en 1943 que l'aventure se termina pour Paul Carbone d'Iventura, mais plutôt mal comme il se doit pour un truand sans foi ni loi. Et c'est au rameau rapide, un claque-fille de mauvaise vie, que Stéphanie blesse à part mal. Angelo, le mafioso, l'a eu de la chance, ce vieux salaud, s'en tirer comme ça sans trop d'accro.
Entre chien et loup, que tombe la nuit, entre chien et loup, que tombe la nuit.
Et c'est au cimetière de Clichy qu'Angelo retrouva Stéphanie, qui sans se méfier se laissait aller à fleurir la tombe d'un ami mort il y a 6 mois déjà d'une méchante petite balle dans le foie. Angelo, dit à Stéphanie, oui c'est moi qui ai tué Ventura. Tu vas me payer ça. Et il lui logea de son froid une méchante petite balle dans le foie.
Entre chien et loup, quand tombe la nuit. Entre chien et loup, quand tombe la nuit. Entre chien et loup, quand tombe la nuit. Entre chien et loup, quand tombe la nuit.
entre chien et loup, quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit. Quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit, entre chien et loup, quand tombe la nuit.
En string tatoué salopard. Pour une main franche tu sers de main moite. Pour un gars qui marche droit tu envoies de qui boite. Mais bon soit. La vie est ainsi faite. Je peux pas reprocher aux nazes de refouler leur défaite. Les mecs me testent et c'est pas de la parano. En soirée, en métro, en voiture, au macho. Ils veulent ma chute, que je reste en seconde zone. Les regards me transpercent comme la couche d'ozone. Frérot je reste humble. Mais si tu me la joues back chiche, alors je te baise et te jette comme une bitch. Comme une bitch. Il voulait mettre de la crème dans mon café noir pour qu'il vire R&B que je reste sur le trottoir. J'ai pas besoin de vos thèmes, de vos faux soirées stars, de vos vieilles pisses en boire, d'un rap en costard. J'aime pas les bains de foule, les clubs pleins de blondes qui s'accrochent à tes boules jusqu'à ce qu'elles fondent. Entre nous y'a un monde, une culture, des valeurs. J'ai vu à la seconde où tu m'as demandé l'heure. Quoi de neuf cousin? Au fond t'en as rien à battre. C'est pas dans le rap que t'excelles, mais plutôt dans le théâtre. Dans chaque boîte y'a six compacts, de Lil Kim, un Eli, un Biggie. Ces soirées déguisées mais sans les confettis. Chercher à lever une meuf en deux minutes, c'est comme chercher de la chaleur dans les bras d'une pute. Certains se donnent corps et âme, collectionneuses d'hommes. Plus de fils dans leur vie que sur l'atomium. Dans ma ville comme chez Léon, les moules sous les néons, ça folle. Pour 20 euros passe à la casserole. Les traves font la file en dessous de Belgacom. Pendant que les putes de luxe se font mettre sans condom. Viens faire un tour ici, prends le taxi. L'anorexie se veut sexy en parésie. De la place du jeu de balle à la place de broker. Y'a des transfusions de cam et de situations précaires. T'habites un bunker, on appelle ça un loft. Valeur immobilière pour ceux qui se croient à New York. Les quartiers pauvres sont rachetés par les branchés. Et si t'as pas de thune, débarrasse le plancher. L'inflation fait les cardiaques, le travail aux plaques, les putes, les macs, les flics qui se donnent en spectacle. Viens dans ma ville, voyage au cœur de l'Europe. Mais n'oublie pas ta thune ou bien tu crèves comme une salope. Bitches like you ain't shit to me.
Trip. You know my motor's so loud. We got guts, we own.
Ah oui, je me disais bien aussi.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Para el comienzo a la obra, se ha preparado la equipona. Para el comienzo a la obra, suya bota furulele, emprenda de capiosile, suya bota furulele, emprenda de capiosile. Dará se pone el día pa' saludar a papá. Un gallo coco y maíz, que tamboya está sonando. Un gallo coco y maíz, que tamboya está sonando.
Ova chule, ova chule, ova
Principe actif.
Le cerveau est fragile. Aussi est-il protégé par la boîte crânienne. Pour arriver jusqu'à ces enveloppes molles, les méninges, il est nécessaire de commencer par ouvrir cette boîte crânienne. C'est ce que je vais faire.
102.4 FM.